Travailler à France Inter, pour beaucoup, c'est un rêve. J'ai ce souvenir d'une amie qui est restée bouche bée quand je lui ai annoncé que j'allais entrer dans la Maison Ronde pour faire partie de la bande originale aux côtés de Nagui. Et là, tout de suite, elle m'a livré avec un débit de sulfateuse tout ce que la radio représentait pour elle. Ses parents écoutent cette antenne depuis qu'elle est petite. Elle pouvait me citer une myriade de noms d'émissions. Elle peut reconnaître même la voix des animateurs. Elle pouvait fredonner l'indicatif de la maison à différentes époques. Un bébé Inter, en somme. Et moi, j'ai commencé à me sentir un peu mal. À la maison, enfant, on écoutait une autre station. Pas toute la journée, seulement à l'heure du déjeuner et un peu après. Je revois ma mère, la table pas encore débarrassée, très concentrée. Elle écoutait chaque jour « Les auditeurs ont la parole ». Je me souviens de mon père fredonnant dans son atelier des tubes des Yéyés, du Léo Ferré aussi, du Nougaro. C'est avec lui que j'ai appris à aimer la musique. Et puis surtout, je revois précisément une scène, c'était un peu ma mission du jour. Il y avait une émission où on faisait gagner de l'argent. Tous les midis, l'animateur annonçait un montant. Moi, je le consignais par écrit. J'ai appris très tôt à écrire les chiffres et j'attendais fébrilement que le téléphone sonne. Cela n'est jamais arrivé. Pourtant, on en a tous rêvé à la maison. La radio, peu importe laquelle, elle entre dans votre vie et elle est associée pour toujours à votre quotidien. Sans la radio, la vie est un peu triste. Moi, il me manque quelque chose, elle fait partie de la famille. Parfois, on l'adore, parfois, elle vous agace. Parfois, on s'en sert comme fond sonore et d'autres, on monte le son parce qu'on est interpellé. Ce serait beau de raconter votre vie de radio, ami auditeur. En tout cas, moi, j'adore être en ce moment précis dans vos oreilles.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Leïla Kadour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous culture tous les jours de la semaine pour vous parler de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, une vie de musique, une vie en musique et une vie de radio en plus avec mon invité que vous connaissez bien puisqu'il officie sur cette antenne. Il nous a régalé avec son émission Full Sentimental, il a animé vos soirées récemment pour les Franco de La Rochelle. Bonjour Didier Varro.
Bonjour Leïla.
Bienvenue dans cette émission. À la rentrée, Didier, on ne vous retrouvera pas à l'antenne. Vous avez été nommé directeur de la musique de Radio France. Alors j'ai trouvé que c'était l'occasion rêvée pour vous faire venir ici au micro. Le Mac de l'été, c'est une émission de culture, comme je l'ai dit. Ceux qui font cette culture, ceux qui la font vivre aussi, ont leur place dans cette émission. Nos auditeurs vous connaissent comme animateur. Ils ignorent sans doute tout votre parcours au service de la musique et des artistes. Moi aussi, j'en ai beaucoup appris en préparant cette émission et pourtant, je pensais bien vous connaître. Si vous deviez, Didier, me donner un souvenir de radio enfant comme moi je l'ai livré, là, à l'instant.
Eh bien, je pourrais presque dire que je devais faire partie de votre famille.
C'est vrai.
Puisque dans ma famille aussi, on écoutait France Inter, on écoutait le jeu des 1000 francs.
Ouais.
Mais il y avait d'autres radios qui existaient. Voilà. Et moi, j'étais un de ces acteurs, auditeurs de ces radios. Hein, une image, moi, enfant, avec la radio collée
à l'oreille
et m'endormant avec la radio.
C'était voilà. Le doudou, en fait.
C'était mon doudou à moi, ouais. Et je m'en suis pas souvenu tout de suite. C'est ma mère qui m'a rappelé ça quelques années plus tard, quand elle me disait que même adolescent, à l'heure de passer mes examens sérieux, ouais, c'est-à-dire le bac français et le bac, j'avais la radio encore dans le lit.
Et aujourd'hui, elle est où la radio à la
elle
maison
est partout. Ouais. Il y en a une dans la salle de bain, il y en a une au salon, il y en a une à côté du lit et il y en a une qui se balade avec moi, comme vous le savez.
Sur le téléphone,
sur
forcément.
Le téléphone, elle est partout, elle est omniprésente, bien plus importante que la télé.
C'est le premier geste du matin ?
Presque.
Presque, presque. Ça veut dire que ça compte quand même.
Ah ouais. Mais ça compte énormément, énormément.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Pour commencer cette émission, on fait un peu les choses à l'envers avec un questionnaire la dernière fois. Didier Varro, la dernière fois que vous avez pleuré en voyant un artiste sur scène?
Ah, je croyais, la dernière fois que j'ai pleuré, vous étiez là.
Ouais.
La dernière fois que j'ai
c'était
pleuré.
C'était au Francofolie?
Oui, c'était au Francofolie, quand j'ai rendu l'antenne pour la dernière
fois.
La dernière fois que j'ai pleuré en voyant un artiste, c'était probablement dans mon émission, mais avec beaucoup de pudeur, parce
ouais.
que voilà, c'est Chaton en fait,
Chaton
qui était un des résidents de Full Sentimental, qui pour la dernière de Full Sentimental a réécrit une chanson qui m'était destinée, et donc là, ouais, ça a été un peu la chiale.
La dernière fois, Didier Varro, vous avez eu envie de raconter la vie d'un artiste. On va parler dans cette émission de vos créations, de documentaires consacrés à des artistes que vous aimez, que vous avez rencontrés, qui symbolisent quelque chose de fort dans la chanson française. La dernière fois que la dessinée de l'un d'entre eux vous a interpellé.
C'est tous les jours.
Tous les jours.
C'est une bonne question. C'est dès que j'écoute un disque qui me plaît, un album qui me plaît, des titres qui font sens, tout d'un coup, j'ai envie de raconter une partie de son histoire, de m'immerger dans son histoire, d'essayer de raconter sa mythologie. Donc ça, c'est pour la réalité, mais dans les faits, effectivement, la dernière fois que j'ai raconté à nouveau une histoire, c'est celle de Claude Nougaro, puisque à la rentrée sort une intégrale chez Universal, où je me suis immergé à nouveau dans toute sa discographie pour raconter Claude Nougaro à travers ses chansons.
La dernière fois que vous ne vous êtes pas senti à votre place?
Ça, c'est une question vache.
Non, mais je me pose cette question. Moi, je me pose cette question souvent. Ça
ouais,
m'arrive souvent.
Non, mais c'est vrai. On est face au monde politique.
Mm-hmm. Ouais. Il faut avoir d'autres armes.
Il faut avoir d'autres armes.
D'autres éléments de langage, peut-être.
C'est séduisant, hein. Mais ouais. Est-ce qu'on est bien à sa place dans ce moment-là?
La dernière fois que vous avez dansé en club ou en boîte de nuit? Parce que la musique, voilà, c'est votre passion, c'est votre métier, c'est ce qui vous fait vivre aussi. Alors, comment on en profite de cette musique?
La dernière fois, c'était à La Rochelle, figurez-vous, dans une boîte locale qui s'appelle le Triolet. Oui, il était 5h du matin et j'ai dansé jusqu'à 7h du matin. J'étais un furieux clubbeur plus jeune.
J'ai cru voir ça, ouais.
Voilà, mais je danse aussi beaucoup à la maison, enfin... On organisait pas mal de fêtes à la maison, où on dansait, où le corps lâchait prise.
C'est ça, où le corps exulte.
Mais il a exulté, donc très récemment.
Au Franco pour cette dernière prise d'antenne magistrale.
Parce que les dance floors successives se sont fermées, on s'est échoué dans cette boîte qui s'appelle le Triolet.
La dernière fois que vous vous êtes dit, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas mieux pour cet artiste.
Oh, ça, c'est tous les jours aussi. C'est quasiment tous les jours, parce qu'il y a tous les jours des artistes formidables qui ne rencontrent pas leur public. Alors, on peut l'expliquer de façon objective, mais tous les jours, cette interrogation se fait jour, surtout avec certaines esthétiques musicales, comme la chanson française aujourd'hui. On est dans une période formidable pour la chanson. Je pense que c'est la plus belle période de ma vie professionnelle que je traverse, en termes de créativité, en termes d'audace, en termes d'impulsion, en termes de proposition artistique. Mais c'est une période extrêmement difficile pour les chanteurs français, par exemple.
Voilà. Ouais, difficile d'exister sur le marché.
D'exister sur le marché, comment se faire connaître, c'est très compliqué.
Et pourtant, vous participez justement à leur tendre le micro pour les faire connaître. On va y revenir au cours de cette émission. Comme on fait un peu les choses à l'envers, Didier Varro, dans cette émission, on va commencer par un événement récent, on l'a évoqué, on a parlé des Francofolies, on a parlé aussi de Foule Sentimentale, votre émission. C'était le 28 juin de cette année, sur l'antenne de France Inter, cette émission de 21h à 23h, c'était la dernière ce soir-là. Et toute la jeune scène française, et ça c'est complètement fou, jeune et un peu moins jeune, tous ces artistes que vous avez mis à l'honneur, eh bien ils étaient là. Et
c'est vrai.
Ils ont chanté en chœur pour vous. Avec un casting incroyable, je veux dire que vous êtes un artisan de la musique française. C'est une histoire d'amour avec ces artistes. En tout cas, ils parlent souvent de vous en ces termes-là. Ils sont souvent à dire « ma première radio, c'est Didier Varro ».
Ouais, bah c'est chouette, mais je suis vachement ému de réécouter ça. J'ai pas pu la réécouter, cette émission. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de Chaton, qui m'avait donné la larme à l'œil. Et puis, cette fin-là, il y a plein d'images qui... Voilà, c'est cet instantané, effectivement, cette génération qui est venue dans Foule Sentimentale, et qui s'est trouvé une forme de solidarité aussi. C'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs le soir de la dernière. Il y a moi, il y a France Inter, mais il y a aussi ce qui se passe entre eux. Mmh. Et le fait d'être accueilli avec bienveillance et légitimité aussi, c'était pour eux une façon de se reconnaître entre eux et de se dire on n'est pas tout seul, ça va être compliqué, le chemin va être difficile, mmh. mais on est ensemble et on a des raisons de se connaître et de se reconnaître sans Didier Varro, sans la radio. Et ça, c'est très très fort. C'est très très fort de créer une famille à son insu, finalement.
C'est ça, cette communauté-là qui se reconnaît, qui se retrouve. C'est une histoire d'amour, qui est aussi votre histoire d'amour avec la musique et avec la radio. Petit retour dans le temps, écoutez.
Inter, actualité.
C'est l'indicatif de France Inter en 64.
On a fait des progrès. Hein.
Mais ouais, mais c'est assez émouvant d'entendre ça.
C'est
ouais.
un côté très GRM. Hein,
mais
hein, c'est un côté très Pierre Schaeffer, je trouve.
Parce que c'est l'indicatif que vous deviez entendre enfant, Didier Varro. Ouais. C'est à peu près dans ces années-là. On a parlé de cet enfant collé à la radio, radio addict. Quelle musique on écoutait chez vous, enfant?
Alors, mon père écoutait plutôt du jazz, essentiellement du jazz. Et un peu de chansons françaises et surtout Charles Trenet mmh. et Georges Brassens.
Et maman?
Et maman était plus variété, populaire. Alors Joe Dassin, ça c'était son héros. Adamo, avant, il y a eu Adamo, Joe Dassin et puis Julio Iglesias.
Ah voilà.
Et donc voilà, ça forge l'éclectisme. Hein.
Et quelle place on trouve là-dedans? Quelle culture on se forge musicale?
C'est une excellente question. Moi, j'ai une culture radiophonique. J'explique mmh. toujours ça. J'ai découvert la musique par les 45 tours, par les titres qu'on diffusait. Et c'est l'amour de ces titres et cette perception radiophonique que j'en avais qui m'a forgé une culture. C'est-à-dire, c'est une culture totalement autodidacte. En même temps, c'est con parce qu'il n'y avait pas d'école oui. pour apprendre la variété française ou la pop anglo-saxonne. Mais c'est ça. Vraiment, moi, j'ai une culture radiophonique. Je ne suis pas passé par Best, Rock and Folk et des tuteurs comme ça dans un premier temps. Hein. C'est la radio qui m'a amené ensuite aux 45 tours, puis à l'album, puis à ce qu'on en disait dans Rock and Folk, dans Best, dans les revues spécialisées des années 70. Voilà, c'est un parcours qui est vraiment très important parce que c'est le parcours populaire. La radio a toujours diffusé des titres très populaires et en même temps, dans certaines émissions de nuit, on pouvait découvrir du jazz, du rock, de la pop. Et donc, voilà, moi, cette culture-là, c'est la culture de cette maison, mais aussi la culture d'Europe numéro 1, mais aussi la culture de RTL. Quand j'étais gamin,
un enfant de la radio,
j'écoutais le hit-parade ouais. de RTL, d'Europe 1. Et de France Inter, parce qu'il y avait un hit parade, hein, France Inter
c'est
quand
vrai.
Même.
Ouais, d'accord.
Et ensuite, je faisais des fiches de synthèse.
C'est
et
bien.
Je faisais mon propre classement. Je disais, bah, RTL, Adamo, donc, est numéro 1. Sur France Inter, ça va pas du tout, il est numéro 15. Et sur Europe, il est. Et RMC, j'oublie. Et après, je faisais mes propres synthèses.
Déjà programmateur.
Ah, j'avais un peu ce truc-là. Ouais. Et puis, j'essayais de comprendre pourquoi il y avait plus de chansons françaises sur une antenne, pourquoi plus de chansons ou de pop anglo-saxonne. Voilà, j'essayais de mettre tout ça en perspective.
C'était déjà une approche analytique, en fait, de la musique. J'ai lu que vous avez cultivé aussi, à l'adolescence, une forme de contre-culture au moment où tous les copains s'intéressaient au rock, vous, la chanson française, a occupé une place de choix.
Oui, et puis assumer, ça, ouais. ça a toujours été mon côté un petit peu rebelle, entre guillemets. Moi, j'adorais dire que j'aimais Véronique Sanson pour de bonnes raisons, puisque j'étais totalement fasciné, amoureux, quand le premier album de Véronique Sanson est sorti. Alors, il y avait des copains de classe qui trouvaient ça pas mal. Les filles trouvaient ça mieux,
ouais.
mais sinon, non, ils étaient dans une autre culture. Donc voilà, j'étais très attaché à revendiquer, dans une époque où c'était pas facile, la variété française ou la pop française dans son ensemble.
Bah justement, Véronique Sanson, l'amoureuse, qui est une sorte de déclic musical pour Didier Varro.
Je me demande si cet amour aura un lendemain quand je suis loin de lui.
Véronique Sanson, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont compté dans votre parcours.
C'est vrai.
Barbara.
Plus de chanteuses que de,
ouais.
Comment
plus vous
de femmes qui chantent, comme dirait Barbara. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une attirance pour les voix déjà, les voix féminines, et puis leur spectre musical et puis leur sensibilité. Voilà. Moi, j'ai toujours été du côté des femmes que des hommes. Et j'en ai fait un combat personnel au moment où il fallait assumer son homosexualité.
Ouais.
Et c'est du côté des femmes que j'ai trouvé des sœurs pour
mener cette lutte.
Ce sont pas les hommes qui ont mené cette lutte. Donc ça a été extrêmement important. Et puis alors pour parler de musique, oui, je sais pas, les timbres de femmes m'ont toujours plus touché, voilà.
Bah justement, Didier Varro, dans le Mac de l'été, j'ai préparé une programmation musicale sur mesure. Et quand je pense à vous, je pense forcément à pas mal d'artistes, mais à une autre femme. C'est Christine and the Queens.
Ah.
Comme si on s'aimait sur France Inter.
Ça n'engage que nos prénoms. Dans mes graves articulés, c'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons. Mais quand même, cette chanson est une pensée, moi qui sais te trouver. D'où vient par grand froid de ta bouche labée? C'est comme si ce mec, tu me mets plus fort, baby. C'est comme si ce mec, tu me mets encore. C'est comme si ce mec, tu peux presque le replacer. Je pars en morceaux, tu ne sais pas me regarder. Et ma voix de chevalier rend justice à ma beauté. Plus douce et tranchante quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte. Je
Christine and the Queen sur France Inter, il est 18h30, Didier Varro.
Une femme puissante.
Ouais, là encore, on est encore dans l'illustration de ces femmes qui vous ont touché. Qu'est-ce qui vous a
D'ailleurs,
plu chez elle?
J'ai bien fait la différence en reprenant la terminologie barbaresque.
Femme qui chante
et non pas chanteuse, ce ne sont pas des femmes qui sont la représentation unique d'un fantasme masculin ou le fruit d'une manipulation génétique qui conduirait à la représentation d'une chanteuse qui exciterait tous les hommes. Non, ce sont des femmes qui sont construites elles-mêmes, toutes seules, avec leur vie, qui chantent leur vie, avec leurs failles, leurs faiblesses, mais aussi leur désir de conquête, et qui construisent aussi un personnage très très fort. Donc il y a de l'émancipation et il y a de la construction de personnages aussi. C'est ce qui fait que j'aime ces femmes. Et Christine and the Queens, pour moi, c'est... Voilà, même quand je l'entends aujourd'hui, Dieu sait qu'on l'écoute beaucoup sur France Inter, ça me fait toujours le même effet. Ça me donne l'envie de me tenir droit. Ça me donne envie d'être fier. Ça me donne envie de faire un doigt aux gens qui sont irrespectueux. Ça me donne envie d'être conquérant. Ça me donne envie parfois de parler au féminin, d'être dans la confusion des genres. Ça donne du désir aussi. Ça donne envie d'être haletant, de ne pas avoir peur. Et Dieu sait que moi, j'ai souvent peur.
Et j'espère qu'on vous donne aussi, aux amis auditeurs, cette envie de ne pas avoir peur sur France Inter avec Didier Varro. C'est un bonheur, Didier, faut que je le dise. Dans la vie, on se tutoie, je respecte les codes de la radio, ça m'est difficile. C'est très émouvant de te savoir là à mes côtés. Certains pourront dire que c'est une forme d'entre-soi, pas du tout. Comme je l'ai expliqué, j'aime recevoir à cette table, à ce micro, ceux qui font la culture qu'on expose et ceux aussi qui la font vivre. Et tu en fais partie. C'était important de te reconnaître tout cela.
On se tutoie maintenant.
Alors on peut peut-être se tutoyer, j'ai peur de me faire fâcher. Mais en tout cas, au-delà de Didier Varro, de son histoire, de son itinéraire, que se passe-t-il donc aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme.
Ouais, le son est green et le maton. Je suis mis devant son zen et je crie Liberta, Matata, Akunya Mama, à toutes les Shmeta, ah la la. Fini de jouer les cons, je leur mets tes petits ponts. Si tes Z, Tartes ou tes Z, Ego tous tes M. Dans l'action, je leur déploie mes ailes. Je prie et je finis seul dans ma ponce. Nique tout sur la scène et je fais bander la scène. Tahia, tahia, pen.
1, 2, 3, viva Algeria, Tahia Jazeil. Vous n'avez pas pu passer à côté de la victoire des Fenech en finale de la CAN. Eh bien, ça n'a pas échappé non plus à PNL. Le duo de rappeurs d'origine algérienne a sorti quelques minutes à peine après le sacre de l'Algérie un morceau inédit, Taïa, qui signifie vive en arabe. Et pas besoin de passer par un média traditionnel. Ils ont tout simplement posté la chanson sur YouTube. Bilan du match, 340 000 écoutes en 45 minutes, une mi-temps. YouTube, toujours, pour un record cette fois-ci, Bohemian Rhapsody vient d'atteindre le milliard de vues sur le site d'hébergement de vidéos. Pas le film, la chanson. Ce titre de plus de 6 minutes qui rendait il y a 44 ans complètement sceptique la maison de disques du groupe Queen. Il y a peut-être une explication scientifique à la clé. Selon un chercheur néerlandais, Bohemian Rhapsody fait remonter en flèche notre taux d'endorphine, l'hormone du bonheur. Ne niez pas, on sait que même les plus timides d'entre vous, vous l'avez chanté un jour seul au volant. Personnellement, je la massacre régulièrement et ça me met en joie. Et pour Pénélope Bagieux, hip hip hip, hurrah, l'illustratrice et autrice de BD a reçu vendredi un Eisner Award, une distinction mondiale remise lors du festival Comic Con de San Diego en Californie. Et attendez la suite, je ne vous ai pas encore dit pourquoi elle a été récompensée. Pour sa série Culottée, sa bande dessinée qui dresse le portrait de femmes qui ont combattu les normes sociales et qui ont fait l'histoire. Des femmes de toute époque, de tout horizon, de toute origine culturelle, ethnique et sociale. Bravo Pénélope et merci.
Leïla Kadour, le Mac de l'été sur France Inter.
Didier Varro dans le Mac de l'été, on a entendu le titre de PNL, Taïa.
J'adore ce groupe.
Ouais, c'est la musique
alors
urbaine.
Pour le coup, c'est des mecs.
Là, c'est des hommes.
Il n'y a pas de confusion des genres.
Qui échappe aussi, je l'ai dit, aux médias traditionnels qui ont toujours fonctionné un petit peu de leur côté.
Oui, pas de label, c'est eux-mêmes.
Ils ont révolutionné la manière de communiquer.
Voilà, ils sont eux-mêmes producteurs de leur matrice artistique. Ce ne sont pas les premiers, mais en tout cas, on est dans le circuit court avec PNL. Ouais. On produit et on diffuse immédiatement sur sa chaîne YouTube ou sur les plateformes de streaming avec cette immédiateté qui est géniale. Et puis un très beau projet de mon point de vue artistique et aussi textuel. Alors, ce qui est génial avec PNL, c'est qu'au début, on comprend rien.
Ouais.
Donc,
on sent un peu exclu au début.
Un peu exclu, mais en même temps, c'est comme rendez-vous en terre inconnue. C'est un peu excitant. On a envie d'y aller quand même. On a envie de voir comment ça se passe au Tarteret. Et puis, finalement, on est assez vite complice de cette exclusion, comme vous dites, mais ça fait du bien de ne pas toujours tout comprendre et d'être frontalement avec cette langue qui est une langue nouvelle, hein, mm-hmm. celle de PNL, c'est une langue qui respecte parfois la langue française et qui parfois en invente une autre. Et c'est la confrontation entre ces deux langages qui fait quelque chose de totalement incroyable. Ça ouvre l'imaginaire. Des fois, vous ne comprenez pas ce qui est dit, mais vous avez l'imaginaire qui est totalement ouvert. C'est-à-dire que c'est très fort, hein, ça. Et puis alors, musicalement, je trouve que c'est un groupe qui a apporté énormément au hip-hop français. Voilà, alors, non, on ne va pas uniquement parler du vocoder ou de l'autotune, mais en tout cas, eux l'utilisent et en font une figure de style qui est intéressante, qui, pour moi, se rapproche de ce qu'a fait Aphex Twin, par exemple, dans la musique électronique. C'est un peu du même... Quand on invente quelque chose, moi, je trouve ça toujours intéressant.
On parle de musique électronique, forcément.
Parce que c'est de la musique électronique, hein.
Ouais.
C'est du hip-hop, mais c'est de la musique électronique. Le hip-hop étant de la musique électronique.
Eh bien, dans votre parcours, Didier Varro, la musique électronique, vous l'avez aussi défendue à une époque où elle n'était pas monnaie courante.
Ah. Le générique d'Électron Libre.
Cette émission que vous avez animée.
La dernière fois que vous m'avez fait pleurer, c'est maintenant, il y a 4 jours. Ouais, 9 ans sur l'antenne de France Inter, le vendredi, puis le samedi, puis le dimanche, de minuit à 1h du matin. C'était un rendez-vous vraiment extrêmement important, et pour moi, et je pense pour une partie des auditeurs, puisque j'y ai fait des rencontres qui sont fondatrices, vraiment.
Et à cette époque-là, on devait vous prendre pour un fou?
Oui, j'étais un petit peu le corps étranger dans la maison, mais j'ai toujours été ça, donc ça me dérange absolument pas. Et oui, mais en même temps, c'était important que ces musiques-là puissent être représentées sur l'antenne du service public et de France Inter, et d'être considérées comme justement, on pouvait imaginer une émission sur la chanson française ou sur le rock indépendant. Sans dire toutes les phrases ecstasy ou phénomène sociologique ou en étant comme un Lévi-Strauss chez les papous qui tout d'un coup regarderait cette curieuse galaxie de musiciens dont on disait qu'ils n'étaient pas musiciens. Il faut savoir qu'à l'époque où je faisais cette émission, il y avait encore parfois dans d'autres émissions plus généralistes, on interrogeait ce monde des rave parties, ce monde de la musique électronique, cette French Touch qui allait conquérir le monde. Et souvent, les auditeurs et auditrices d'Inter, quand ils intervenaient, disaient « mais c'est pas de la musique, c'est autre chose ». Et il a fallu beaucoup de temps pour faire admettre que ces jeunes gens, qui étaient des sorciers du son, étaient aussi des musiciens, et qu'ils ont fait vraiment avancer notre fierté artistique française, mais aussi ont donné du sens à toute la musique d'aujourd'hui. Qui ne fait pas ou qui n'intègre pas des éléments électroniques dans sa musique aujourd'hui ? C'est très rare.
Et puis ça s'est sorti aussi d'une vision un peu plus politique. J'ai la sensation de la société, je pense notamment à l'intervention d'Arnaud Robotini, qui a signé la musique...
De 120 battements par minute.
Voilà, ouais. Cette palme d'or à Cannes, on l'écoute.
Pour écouter de la techno là et de la house quand c'est arrivé, il n'y avait quasiment que les clubs gays à la fin des années 80 qui proposaient ce genre de musique. Donc j'étais toujours un peu, effectivement... sensible aux causes LGBT et puis au sida, puisque moi-même je suis rentré dans la sexualité quasiment à la découverte du virus, donc avec cette peur toujours du sexe relié à la mort. Et puis fatalement, dans les musiciens que j'ai pu écouter, il y a des gens qui ont qui ont attrapé cette maladie, qui sont morts. Enfin, il y a toute une histoire qui a été pour moi assez importante et qui ont fait partie de ma maturation. Donc, quand Robin Campillou est venu me voir, il m'a dit, voilà, je vais faire un film sur ACT UP, dans les années 90, ce sera un hommage un peu à la house music et aussi à la musique de cette époque-là. J'avais tout à fait en tête le sort d'étendard que cette musique représentait pour soit les milieux LGBT, soit même d'un point de vue générationnel des gens qui sont intéressés à ce genre de musique. Donc, j'ai une certaine responsabilité envers cette musique qui peut être souvent dévoyé ou dévalué du fait de son côté un peu commercial, son côté un peu commun. On va faire ses courses au supermarché, vous pouvez entendre de la house music, alors qu'à cette époque-là, c'était une musique qui était très identitaire, très rattachée à un milieu, et qui était très underground aussi.
Voilà, Arnaud Robotini sur...
Parle bien, hein.
Ouais, qui a géré toute la musique du film de 120 battements, qui était le Grand Prix à Cannes, et pas la Palme, comme je l'ai dit, correctif. Là aussi, c'est une composante importante de la musique, au-delà de cet aspect divertissant, simplement.
Bien sûr, on peut lever les bras en l'air et avoir la conscience du monde, c'est ce que dit ce film, c'est ce que dit aussi l'histoire de la house music, qui est profondément liée à l'émancipation de communautés, que ce soit la communauté black, portoricaine, gay. Et ça c'est constitutif aussi d'un besoin de vivre et d'être reconnu dans sa différence, mais pas que dans sa différence. C'est ça qui est extrêmement important. Cette chanson-là qu'on écoute, c'est le blues des gays, comme disait Arnaud Robotini.
Mais Small
c'est
Town ça. Boy, ouais, de Jimmy Somerville, remixé par
tout
Robotini.
À fait. Et voilà, ça veut tout dire. Le blues des gays, voilà. C'est aussi ça, cette histoire. Et quand on parlait de musique électronique aussi tout à l'heure, on parlait de PNL, mais avant PNL, avant les rappeurs, il y a eu cette génération aussi qui a considéré qu'on pouvait faire de la musique autrement, sans les major compagnies, en inventant, en créant son propre label, en aussi allant toucher le public directement. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, en essayant de casser les codes du spectacle vivant, en disant, nous les clubs c'est bien, les salles de spectacle c'est bien, mais on va aller dans des hangars, on va aller dans des granges, on va aller dans des musées, on va aller dans des endroits désaffectés pour inventer notre propre scénographie, notre propre paradis perdu. Et ça aussi, ça fait partie de la structure et de l'idéologie de ces musiques électroniques. Moi, je suis un enfant de la rave culture. Hein. Je me suis aussi construit à travers cette musique-là. Et c'est, voilà, c'est des musiques qui doivent être considérées. Alors juste valeur.
Comme les musiques urbaines qui sont parfois difficiles d'accès dans un premier temps, mais là encore, la musique, il faut s'y habituer, il faut l'écouter, il faut pas avoir un jugement tout de suite définitif. On écoute Nekfeu et Damso, Tricheur sur France Inter.
Qu'elles font des avances, je ferai pas deux fois la même erreur. Demain ton cœur que j'écrase mon mégot. Ça toi que je parle donc je fais pas tant de Niro. J'ai pris des grammes et j'ai perdu des kilos. T'assumes pas ta calvitie comme Nio. Ça fait trop de weed pour une seule buzz. Ça fait trop de bitch pour une seule queue. Ça fait trop de mort pour une seule vie. Ça fait trop d'or pour une seule fille. J'suis dans le bendo. renfermé sur moi. Je te salue pas, je suis pas courtois. Loin des malfrats et des bourgeois. Entre vie et mort sur la coudoua. J'entends sale nègre, ah ouais, je me trompe sec, glock, boum boum. Bang bang, tous les jours est un main event. Grand noir et dur comme un bas d'ébène. Trop de chagrin à l'intérieur. J'ai connu la guerre et la frayeur. Rupture de lui-même, elle me fait de la peine. Je l'ai même pas baisé que je l'ai déjà ken.
Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Mes copines me taquinent, voilà l'acteur. Ma richesse intérieure dans mon laptop. Maman s'inquiète pour mes frères, elle nous a vu grandir ensemble. Et certains finir l'octobre. Que des cobayes sur une piste étroite, j'ai grandi pareil. La première fois qu'ils te lisent tes droits, c'est quand ils t'arrêtent.
C'est quand ils t'arrêtent, ouais.
Notre succès, c'est pour tous les fils de pute de vigile qui nous ont mal regardés. Et quand j'étais petit, j'avoue, j'étais parfois jaloux des enfants que maman gardait. Ceux qui sont venus soulever les meubles, c'était pas les déménageurs. Séparation des ménages, avant que l'enfant devienne un jeune. Moussa passait 4 ans au placard, pour lui c'était sa dette majeure. Et tes rappeurs, ils parlent de quoi? C'est des beaufs, c'est des maîtres nageurs.
Bon, c'est pas dans ma babynère.
Tu crois qu'on est là depuis hier? Tu parles à fond, tu BBR.
Toujours au fond comme baby R.
Maman, j'étais sous gasoline. Mais je veux être un gars solide. Je veux pas voir mes gars sous lit. Non, non, non. Ça m'inquiète. On s'est pas quitté, on enquête. Compte certifié, mais personne te connaît. T'as pas le droit de tweeter en anglais. Le succès, c'est un moyen d'avoir des plavés. Mes gars, Barry pourrait te vendre une note. Boum boum. Sur les traîtres, une main dans les fesses. Les keufs les font parler comme des ventriloques. J'ai plus l'ami dans la scar faible. La sœur de mon frère, c'est ma sœur. Chez nous, y'a pas de sale. Money comme dans Scarface.
Un break, mec. J'ai trop hype, mec. Me faut une schneck sèche. Tu textes bien fraîche. Que je baisse express. Un gros kit press. J'ai pas que stress. C'est l'autre tristesse. Il faut un business. Que je décompresse. J'suis dans trop de fesses. Faut que je me confesse. J'suis dans le business. Besoin de vitesse. J'suis dans l'ivresse. Pardon, God bless me.
Bientôt, j'arrête tout ça, maman. Bientôt, je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt, j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie, demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman.
Nekfeu Damso sur France Inter. On est toujours avec Didier Varro dans le Mac de l'été. Et Didier, il est venu le temps de rembobiner tous les jours. On fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire réagir notre invité dans le transistor de Didier Varro, la voix d'un animateur, un homme de radio et de télé, un dingue sans concession qui a marqué des générations. Lui, c'est Alain Manval. Oh, une archive de 82 quand il officiait sur la première chaîne TF1 avant le rachat par Bouygues.
Bonjour, 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 good afternoon, Mégaère, votre rendez-vous hebdomadaire avec la musique. Les équipes de TF1 dans le monde entier vont nous ramener des images de rock, de jazz, de hard rock, de salsa, de reggae, de cold wave, de new wave et pourquoi pas du tango argentin. Mais nous sommes en France et en France, il y a des milliers de musiciens et Mégaère sera là pour vous les présenter. Parce que ces milliers de musiciens, ils sont dans la merde. Pour eux, c'est la galère. Alors, Mégaère sera là pour essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile pour eux d'avoir des endroits pour répéter. On vous présentera des organisateurs véreux qui les exploitent. On vous présentera les bons aussi. Et puis, je voulais vous dire quelque chose qui pour moi paraît très important. Le rock'n'roll, cette musique de jeunes, ben, ce n'est pas qu'une musique violente et dure. C'est aussi une histoire d'amour.
Une histoire d'amour, on y revient. On a parlé
le
de
grand
votre
Manval.
Ouais, on a parlé de votre culture musicale par la radio, c'est aussi par des animateurs qui vous ont donné envie.
Exactement, et Manval en fait partie. Ce que j'aime, c'est la passion comme ça qui se transmet, qu'on entend, on l'imagine dans son studio de radio en train d'essayer de nous faire aimer ce qu'il a aimé. C'est aussi une musique. Mmh. C'est pas simplement animer et transmettre. C'est aussi avoir sa propre musique, son propre ton. Alors Manval, c'était un entertainer avant l'heure. C'est quelqu'un qui chantait sur les disques. Alors ça pouvait énerver certains, mais en même temps, c'est ça. C'est il faut avoir une personnalité, il faut être singulier et il faut essayer d'assumer aussi ce que les autres vous ont désigné comme un défaut. C'est compliqué parfois quand on est animateur de radio. Moi, je sais que mon fameux zozotement,
oui, en a, c'est une marque de fabrique.
Voilà, c'est une marque de fabrique, mais vous pouvez pas savoir le nombre de mails ouais. et de remarques que j'ai eues tout au long de mon existence. Alors des fois c'est très drôle, ça fait vraiment marrer, puis des fois ça renvoie à l'enfant qu'on était dans la cour de récréation et qui était désigné du doigt parce que le cheveu sur la langue c'est pas très masculin, donc oui. C'est louche, hein.
Nous, notre marque de fabrique dans le Mac de l'été, c'est de faire une place à la poésie. Tous les jours, dans cette émission, une grande voix de France Inter, bien connue des auditeurs, nous lit un texte.
Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée.
Vous l'avez reconnu, c'est Ali Badou que vous retrouvez dès la rentrée dans Questions politiques le dimanche à midi et dans la matinale le vendredi à 7h50. Merci Ali, explique-nous pourquoi tu as choisi ce texte.
Ce texte, c'est El Desdit Shadow, qui est un poème de Gérard de Nerval et qui est issu d'un recueil qui s'appelle Les Chimères. Pour des raisons très mystérieuses, c'est mon poème préféré depuis toujours, en tout cas depuis que je suis en âge de lire de la poésie. Je ne comprends pas tout ce qu'il raconte, vraiment pas, mais il m'accompagne au fond comme un rap d'Eminem. C'est très curieux, mais ce prince d'Aquitaine à la tour abolie, je me suis souvent demandé ce que c'était que cette tour abolie, s'il y avait une métaphore sexuelle quand on regarde... Dans le dictionnaire ou dans les livres des symboles, il y a plusieurs significations. Ça peut être la rupture de l'équilibre, de la continuité entre la terre et le ciel. Ça peut être aussi un symbole médiéval de vigilance et d'attention. Mais c'est évidemment pas du tout à ça qu'on pense quand on parle ou quand on lit cette expression de tour abolie. Le poème lui-même, quand je disais que ça me fait penser à un rap, c'est parce qu'il pourrait être dit, il pourrait être chanté, il pourrait être rappé, et parce que ce motif du ténébreux, de l'inconsolé dont la seule étoile est morte, celui qui porte en lui le soleil de la mélancolie, c'est une forme de rap urbain que moi j'aime beaucoup pour le coup, et vraiment, bon, évidemment, le plus grand, celui qui en a le mieux donné les exemples, c'est Eminem. Et il y a quelque chose aussi que j'adore, c'est le fait qu'on ne comprenne pas tout du malheur de ce desdichado, de ce malheureux prince d'Aquitaine. D'ailleurs, qui est ce prince d'Aquitaine? Je ne sais pas.
Voilà, merci à Ali Badou. La poésie, quelle place elle occupe dans votre vie,
incroyable.
Didier?
Ouais. Une place périphérique. Parce que, enfin, c'est une bonne question. Une place périphérique si on parle de la poésie que j'entends tous les soirs dans votre émission, mais une place essentielle, majeure, et... qui est celle de la chanson.
Ouais, c'est vrai qu'elle est
le rap
partout.
Et la chanson, c'est de la poésie, c'est la poésie d'aujourd'hui, c'est Audi Berti, le poète Audi Berti qui disait ça. Voilà, ben le futur de la poésie, il est dans le rap, il est dans la chanson, il est dans tous ces auteurs, compositeurs, interprètes qui continuent à malaxer la langue française et à la transformer, à lui donner une force supplémentaire à chaque fois avec des audaces, avec des allitérations, avec des inventions, des néologismes qui font que la langue française reste une langue à part, et quand elle est poétisée et scandée et chantée, et c'est la langue d'aujourd'hui.
Et la poésie nous mène souvent au voyage. Nous, on aime dans cette émission les voyages immobiles par la musique. J'ai choisi pour vous Eddie Mitchell avec Rio Grande. C'est pas un hasard, on le sait tous les deux. Avant de l'écouter, je me suis toujours posé la question de l'histoire d'une chanson, de cette chanson, puisque vous avez été le directeur artistique d'Eddie Mitchell pour cet album-là, Rio Grande. C'est quoi l'histoire de cette chanson?
Oh, l'histoire de cette chanson, elle est simple. C'est qu'il avait fait... Eddie Mitchell était en fin de contrat chez Polydor, sa maison de disques, on lui avait mis la pression en lui disant « Mon coco, le prochain album, il faut qu'il vende comme celui de Johnny ou comme ceux de Johnny ». Donc il avait une pression et à ce moment-là, il dit « Mitchell m'a fait confiance, il a tout reconstruit dans son identité artistique ». Et il a fait un album de rock, mais il lui manquait la chanson, vous savez, celle qui va passer à la radio et qui va peut-être toucher le grand public. Et cette chanson, la première fois que je l'ai entendue, c'était pas en maquette, c'était au téléphone. Lui, il était à Muscle Shoals aux États-Unis. Anonyme, moi j'étais à Paris, il m'a appelé, il m'a dit « je crois que j'ai un truc à te chanter et ça va te faire plaisir ». Et il m'a chanté juste « Rio, Rio Grande ». Et j'ai dit « ah mais oui, c'est ça le tube ». Quelquefois, vous savez, en quelques secondes, on entend le destin d'une chanson. Et voilà, c'est l'histoire de cette chanson. J'ai dit « vendu, c'est bon ».
Et voilà, tu viens de faire ton lancement.
Comme dans un film noir, un jeune couple embarqué dans une sale histoire. Ils veulent picher et rechercher. La vie les a changés. En marginaux blessés, en cavale, changeant chaque soir de telle identité, évitant les bars, mais traqué une seule. Blanchis, sauvés. Rio, Rio Grande. Le temps va s'arrêter pour mieux nous oublier.
Je vais vous laisser Didier Varro sur Rio Grande d'Eddy Mitchell. Merci d'avoir été là.
Merci infiniment, Leïla. C'était un plaisir, mais vous avez failli me faire pleurer, là, hein, encore. C'était un vrai plaisir. Merci. Merci infiniment. Et puis, c'est la dernière fois que je suis dans ce studio où Full Sentimental a démarré, d'ailleurs.
Je suis sûre qu'on vous retrouvera bientôt à l'antenne, moi. Ce n'est qu'un au revoir.
Tout à fait aussi bien aménagé à l'époque, mais c'était bien aussi.
Merci Didier, merci aussi à toute mon équipe, Étienne Bertin à la réalisation, Kevin Pelot à la technique, Marie-Laurent Chéry, Raphaël Grimm, Marquis, Jean-Baptiste Audibert aux platines, sans oublier mes deux petites Anouk Valverde et Maëlan Loaec. Une tendre pensée pour Hélène Bizio, notre chat noir du deux roues, à qui on conseille de ne plus vraiment bouger une oreille. On se retrouve dès demain à 18h avec Akram Khan, le chorégraphe et danseur. Belle fin de journée à vous sur France Inter.